Dit la semaine dernière qu'il y aurait un temps où on partage les miracles. Les miracles, c'est une intervention de Dieu. Ça peut être des petites affaires, mais on dit, hey, ça, c'est Dieu qui est intervenu. Ou ça peut être des grandes affaires, des guérisons, des choses. Alors, ne gênez-vous pas, là. C'est à votre tour de parler de l'amour du Seigneur.
Vous savez, lorsque la femme du pasteur dit, Richard, il faut que tu partages quelque chose. Je crois qu'il faut l'écouter. Oui. Alors, c'était le cinquième jour. Alors, j'étais à la fin d'une distribution des pamphlets évangéliques. Il y en avait cinq et l'évangile se présentait progressivement. Avec le cinquième pamphlet, l'évangile était bien expliqué. Comment quelqu'un peut-il recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était dans un tout petit village au nord de Paris, peut-être 60, 70 kilomètres de Paris. Alors, le cinquième jour, je n'oublierai jamais. Alors, j'étais là dans une rue, je faisais juste deux ou trois, et après avoir fait la distribution, je devrais passer la semaine prochaine pour discuter me présenter s'il y avait des questions et tout cela. Et c'était le cinquième jour. Et chaque jour de la semaine, lundi à vendredi, alors je suis arrivé à la fin de la rue et il y avait une maison où je ne suis pas allé parce qu'il y avait un chien, peut-être un associé de Satan. Il gardait la maison et j'avais toujours peur des chiens depuis que j'étais petit. Et comme d'habitude, je commençais à traverser la rue. Et une femme, elle est sortie de la maison, elle criait, « Attendez, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'êtes-vous pas venu chez moi? » Et j'ai dit, « Madame, regardez mes chaussures, ton chien commence à manger mes lacets. » Et nous nous sommes tous les deux ris ensemble. Alors elle... Je me suis présenté, j'ai donné les cinq pamphlets, et vous voyez, cette femme, elle est en train de discuter la Bible avec un témoin de Jéhovah, ok? Et elle m'avait invité à revenir à la maison un soir pour passer quelque temps avec mon épouse et prendre un dessert. Je ne sais pas si Elisabeth était avec nous. Mais on a fait des études bibliques de suite, et quelque temps plus tard, Monsieur et Madame Goury se sont convertis à Jésus-Christ. Alors, il y a quelques années de cela maintenant aux États-Unis, alors j'ai appris que son fils était ici dans le nord de Québec. Il y avait six enfants dans la famille. Monsieur Goury a déjà commencé une église maison il y a plus que 20 ans maintenant. Et quand j'ai parlé avec Madame Goury, il y avait une assistance une assistance moyenne le dimanche matin de 150 et en plus. Et toute la famille était impliquée dans l'église. C'était une église naissante le cinquième jour parce que la parole de Dieu a été plantée. La parole de Dieu est fidèle. Je ne prêche pas, ok? Mais il y a un verset qui dit, je sais que Daniel qui va prêcher, mais il y a un verset qui dit, il y a celui qui plante et celle qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen.
Quelqu'un d'autre? Mimi?
Il y a des choses même que je suis pas à l'aise de venir en avant, qu'on peut pas garder pour soi. Qu'il faut quand même raconter ce que le Seigneur a fait. Moi, je suis ici ce matin pour vous parler vraiment de la puissance de Dieu manifestée dans ma vie. Je vais vous parler d'un sujet qui est délicat, qui est la dépression. Je sais quand même aujourd'hui, beaucoup de gens ont honte de ça. J'ai fait une dépression moi, qui a duré 20 ans. J'ai pris des antidépresseurs, j'ai fait 5 ans de thérapie, j'étais entourée de gens qui m'aimaient, je priais, je pleurais, je suppliais, j'implorais, rien changeait. J'étais toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Par moments, je pensais que les choses se replaçaient, mais le manège recommençait. Alors Jacques disait, avec Mimi, on est dans les montagnes russes. C'est sûr, c'est pas une affaire qui est facile à parler. Alors, moi, je croyais que toute ma vie, j'aurais pris des antidépresseurs. Puis pour moi, c'était correct, tant que ça m'aide, pourquoi pas. Le 29 septembre 2009, tout allait bien. J'étais dans la joie, j'étais bien dans ma peau. Mais le lendemain, c'était la vague qui descendait. J'étais tellement mal, je ne peux même pas vous expliquer, mais je vous en parle, puis je vous dis, je me souviens comme c'était hier, j'appelais ça le mal de l'âme, à quel point ça faisait mal, je peux vous dire, je sentais mon âme. Le 31, le lendemain, je rencontrais une connaissance qu'elle a remarqué que vraiment, j'allais pas bien. Elle me dit, Mimi, étends ta main, puis elle m'a mis l'image de Jésus dans ma main. Je l'ai regardée, mais moi, j'étais tellement souffrante, c'était impossible pour moi même de penser, même de demander. Ma tête était vide, j'avais trop mal. Et lorsqu'on souffre, on ne peut pas ni penser ni demander. Après quelque temps, je suis repartie. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé, jusqu'au 9 septembre, je n'ai pas pris d'antidépresseur. Mais là, j'ai eu une rechute. Alors, je me suis dit, j'ai imaginé que j'étais guérie. Mais depuis le 13 septembre 2009, je n'ai jamais repris d'antidépresseur. Je suis vraiment guérie. Moi, j'ai compris que la guérison, ça ne dépendait pas de ce qu'on demandait, ni de ce qu'on pouvait faire, ni de ce qu'on pouvait penser. La guérison, c'est la grâce de Dieu manifestée en nous. Je peux vous dire, moi, qu'aujourd'hui, je suis bénie de vous raconter ce que mon Seigneur a fait pour moi. Combien mon Seigneur est grand et merveilleux. Il m'a guéri pour que sa gloire se manifeste en moi. Puis maintenant, il me dit qu'il se sert de moi pour bénir les autres à travers moi. Vous savez que même en 2014, je peux vous dire que le Seigneur fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles, mais on ne les voit pas. Moi, quand je fais le bilan de ma vie, je réalise que ma vie, elle est tissée de miracles divins. Ce que je vous ai raconté, ce que je vous ai témoigné ce matin, ce n'est qu'une parcelle de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Merci.
La suite la semaine prochaine. Hein? Alors, préparez votre témoignage. Tout le monde va y passer. Alors, tous bien régler ça tout de suite. Fait que la semaine prochaine, ça sera votre tour. Je pense les jeunes, vous allez, est-ce que vous allez avec Marc, oui? Et puis, je vais inviter Daniel pour le message.
Est-ce que c'est un merveilleux?
Oui.
Oui? Un Seigneur merveilleux. C'est béni d'entendre les témoignages. C'est vraiment une bénédiction. Et j'avais pas peur de perdre ma place, Richard. De toute façon, le Seigneur est vivant, c'est lui qui contrôle sa parole ici. Je veux juste aller me prendre un verre d'eau, vite. Ok, merci. Ici, je vais avoir besoin de toi, Marin. Alors, j'aimerais juste remettre ce temps au Seigneur, incliner nos têtes, puis dire au Seigneur, c'est à toi. Seigneur, ta parole et nos cœurs, nos bouches, nos oreilles sont pour toi ce matin. On est venu, Seigneur Dieu, pour toi, pour te célébrer aussi. Mon vœu aussi, Seigneur, c'est que cette parole ne nous centre pas sur nous, mais sur toi. Je te prie d'utiliser ma bouche pour qu'on puisse se tourner vers toi, Seigneur Dieu, puis te glorifier, puis être émerveillé par toi. Seigneur, tu es vivant, tu es notre Seigneur, tu es notre roi des rois, et on le confesse. Au nom de Jésus, amen. Merci. Moi, je suis quelqu'un qui aime me poser des questions. Ah oui, voilà, oui. Oui, c'est ça. Salah, il m'a fait peur, là, vendredi. Il m'a dit, « Ah, Daniel, ça va être difficile. » Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, faut penser... J'aimerais qu'on vous parler de la folie de Dieu. Est-ce que c'est malsain si je dis que Dieu a une folie? Est-ce que je suis le premier à dire ça d'abord? Alors même dans la Bible, ça nous dit, dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit, dans Corinthiens, il dit, la folie de Dieu est plus sage que l'intelligence des hommes. D'accord? Donc, c'est pas par hérésie que je dis que Dieu est fou, que Dieu a une folie, mais que sa folie, elle est plus sage que notre propre intelligence. Mais c'est de ce Seigneur que je veux parler, justement, qui moi, des fois, il m'émerveille. Des fois, quand que je le prie, je lui dis un petit peu, quand même gentiment, je dis, Dieu, t'es fou. D'abord, de m'aimer moi, hein, il faut un petit peu de... Je lui dis, quel Dieu fou pour nous aimer, pour m'aimer, pour rester avec dans mon cœur, puis de rester là. Alors Dieu, il y a un brin de folie, mais aussi si on regarde des fois sa sagesse, elle nous dépasse. Et, vous comprenez que dans les essentiels, on est rendu à parler de l'Église. Alors, j'aimerais vous parler de l'Église et vous allez voir que j'en parle dans un côté fou, de la folie de Dieu. La folie du Seigneur. Surtout avant que je sois marié, j'avais mes amis qui se moquaient de moi, en quelque sorte, parce que comme je me posais souvent des questions, je me contentais pas de juste une phrase comme ça, tu sais. Par exemple, les genres de questions que je me posais, tu sais, par exemple, quand ça va mal, quelqu'un arrive, vient te voir, dit « Ah, mais Jésus t'aime, tu sais. » Alors moi, j'avais des questions, je me disais « Mais, qu'est-ce que ça fait dans ma vie que tu me dises que Jésus m'aime? » Alors, c'est le genre de questions que je me posais. C'est ma folie à moi. D'accord? Ça, c'est pas la folie du Seigneur, c'est qu'il nous aime. Mais c'est le genre de questions que j'avais. Et en même temps, je me disais, c'est quoi l'amour? Et j'ai un gros dictionnaire grec quelque part. Et là, je cherchais, c'est quoi l'amour? Tu sais, je cherchais dans la Bible, c'est quoi l'amour? Je vous parlerai pas aujourd'hui de toutes ces recherches que j'ai faites avant de me marier. Parce que je voulais être sûr en même temps que j'allais vraiment être en train d'aimer ma femme quand que je... Tu sais, alors je me posais vraiment des questions comme ça. Alors, bienvenue encore dans ma tête. La question en fait que je vous lance aujourd'hui pour aborder l'idée, et on va lire Actes 2, 47. On va lire un petit peu avant. On va lire à partir de 43 jusqu'à 47. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. C'est tout de suite après la Pentecôte. Je n'ai pas dit le contexte, mais c'est après que le Saint-Esprit ait rempli les disciples. Donc, verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit avec tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La question, moi, que je me suis demandé, c'est pourquoi le mot « Église » ? D'où est-ce que ça vient, ce mot-là, « Église » ? Le mot « Église », c'est un... Est-ce que quelqu'un connaît le mot « Église » en grec ? C'est quoi le mot « Église » en grec ? Oui, ecclésia. En fait, église, c'est simplement une transposition. Donc, en grec, c'est ecclésia qui a donné église. Quand on était même au Niger, quand on essayait de parler avec les Touaregs, pour essayer de traduire, on n'essayait pas de traduire vraiment le mot église parce que c'est c'est comme un mot étrange, en fait, étranger. Alors, on disait ecclésia dans la langue touareg, tu sais, parce qu'il n'y a pas de parallèle vraiment. Et si on disait église, ça faisait quelque chose qui vient des Blancs. Parce que tout le monde connaissait les églises, mais on s'est dit, il faut communiquer une idée qui est différente. Mais d'où est venue l'idée de... Parce que l'apôtre Paul et les apôtres, ils n'ont pas inventé le mot ecclésia. Ça existait déjà dans la tradition grecque, dans la vie grecque. Mais dans la tradition juive, il y avait un autre mot. Il y avait un autre mot. Quelqu'un a une idée? Quel était le mot qui pouvait correspondre? Synagogue. C'était synagogue. Les Juifs, quand ils se réunissaient à la synagogue. Mais la tradition chrétienne, l'apôtre Paul et les apôtres, ils ont choisi le mot ecclésia. Parfois, dans la Bible, on voit qu'ils utilisent le mot synagogue pour parler de l'assemblée de l'Église. Mais c'est le mot ecclésia qui va rester jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on dit Église, on dit pas synagogue. Même quand une nouvelle Église veut se faire différente, j'ai pas rencontré une Église qui va dire, la synagogue de Jésus. Peut-être parmi les croyants d'origine juive, hébreu peut-être, mais c'est le mot église qui est resté. Parfois, on va avoir le mot assemblée, qui est plus une traduction française, mais rare, tu sais, il n'y aura pas, est-ce qu'il y a la synagogue de la CIM quelque part? Je sais pas, peut-être. Le mot synagogue, en fait, c'est aussi du grec. C'est deux. Mon ami Michel nous a donné une belle liste avec toutes les uns les autres. Et donc, dans le mot synagogue, il y a synagogue. Et le préfixe syn en grec, ça veut dire les uns et les autres. Et donc, agogue, c'est ceux qui s'instruisent ou ceux qui s'instruisent les uns et les autres. Mais les apôtres, ils n'ont pas choisi ce mot-là parce qu'ils voulaient pas se rattacher à la tradition des judaïques. Et ils avaient découvert une autre réalité, peut-être. Alors, je vous amène dans la tradition grecque. Je ne vous amène pas dans la mythologie grecque, je vous amène dans la tradition grecque, juste pour voir c'était quoi l'ecclésia pour les Grecs. D'où ça venait, ce mot-là? Et vous allez voir que Sophie est partie faire l'école du dimanche, là. J'en profite parce qu'elle aime pas que je parle de politique. Parce que vous allez voir qu'on va parler de politique. Parce que l'ecclésia, c'était le rassemblement des citoyens. Dans les villes grecques, les citoyens avaient le droit de vote. C'est eux, quand ils se rassemblaient en assemblée, c'est eux qui élisaient les chefs de la cité. Et c'est aussi eux qui choisissaient des lois. C'est eux qui pouvaient déclarer même la guerre ou déclarer la paix. C'était les citoyens réunis en assemblée qui avaient cette autorité-là. Dans l'époque grecque, c'était pas tout le monde qui était citoyen. C'était une minorité. Donc, dans l'époque grecque, tu avais les citoyens, puis après ça, tu avais des gens libres et tu avais les esclaves. Une des merveilles de la décision de l'inspiration du Seigneur d'utiliser le mot ecclésia, c'est que qui était dans les églises à l'époque des apôtres, des pères d'église, qui remplissait les églises, surtout en majorité à cette époque-là? Parmi les citoyens, les gens libres et les esclaves, quelle classe de la société remplissait les églises? C'était les esclaves. C'était les esclaves. Les esclaves qui n'avaient aucun droit. Si c'était la guerre, si les citoyens, l'assemblée de Athènes choisissait de faire la guerre, les esclaves n'avaient rien à dire, sinon à porter les armes. S'ils décidaient d'une loi quelconque, les esclaves n'avaient rien à dire. Si les citoyens pouvaient choisir comment on traitait les esclaves subissaient, ils n'avaient rien à dire. Et ils étaient en majorité dans les villes, mais ils étaient en majorité dans l'église aussi. Et quand ils arrivent, ils se présentent le dimanche matin, ou très tôt à l'aube, ou le samedi soir très tard peut-être, ils s'en allaient à l'église. à l'Ecclésia du Seigneur. C'est comme si on disait, OK, maintenant, nous, le dimanche matin, on s'en va à l'Assemblée nationale. On va aller à l'Assemblée nationale et ce sont nous les députés. En fait, il n'y a pas de députés, c'est nous. Nous sommes les citoyens qui ont le droit de parole. En fait, il n'y a pas de parallèle entre notre politique actuelle et ce que vivaient les Grecs. C'est vraiment un décalage. Si on essaie d'utiliser les mêmes mots, ça fonctionne pas bien. Mais imaginez pour l'esclave, il avait le privilège d'aller à l'Assemblée, donc à l'endroit où ce qu'on peut, on a du pouvoir politique, mais là, ils appartiennent pas nous n'appartenons pas à une cité terrestre. C'est l'Assemblée des citoyens des cieux. Nous sommes les citoyens des cieux. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé, cela? On va aller voir parce que je veux pas que vous pensiez que je suis fou, là. Vous le pensez déjà, mais c'est pas, peut-être, mais, est-ce que c'est trop, Salah est déjà parti. Ah, merci, tu m'as fait peur, Salah, là. C'est mon baromètre, là, si Salah disparaît. Philippiens 3:20. Pour nous, notre cité, elle est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, notre cité, elle est dans les cieux. Moi, j'ai une petite note en bas de page. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction que le mot cité? Conversation? Oui. Philippiens 3:20? Notre conversation? Oh, je comprends pas ça. Ah, Michel, lui, il a citoyenneté. Est-ce que quelqu'un a citoyenneté dans sa Bible? Non? Ah, moi, je l'ai en bas de page. C'est écrit littéralement, en fait, c'est écrit citoyenneté. Donc, si on le retraduit, ou tu veux-tu nous le lire, Michel, voir comment ça sonne? Ah, OK, toi aussi, tu as la note en bas de page. OK, merci. Alors, on est d'accord. Donc, si on met la note en bas de page dans la page, ça ne fait... Pour nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes citoyens de la cité céleste du Seigneur. Là, vous dites, c'est beau. Il n'y a pas de folie du Seigneur encore vraiment. Peut-être. Parce qu'ici, il y a peut-être quelques-uns ici qui ne sont pas citoyens canadiens. Mais en général, on est tous citoyens d'un pays. C'est comme de par naissance. Il n'y a pas rien d'exception. Donc, dire qu'on est citoyen des cieux, c'est juste normal. Mais même, en fait, ici, des fois, on perd l'effet, la puissance d'être citoyen. Parce que, comme tout le monde est citoyen, c'est quoi l'histoire? C'est quoi qui est merveilleux d'être citoyen du ciel? Même ici, des fois, on pourrait dire, c'est décevant. Il y avait, je crois... un projet de loi modernisé d'enlever la citoyenneté des gens s'ils commettaient des crimes ou quelque chose, mais sinon être citoyen c'est comme ordinaire, tu sais. Si vous êtes canadien, on a tous le droit d'avoir le passeport et rien de spécial, hein. Mais à l'époque grecque, c'était unique celui qui était citoyen. Et même à l'époque romaine, de la même façon, on connaît tous que quand justement ici c'est dans Philippiens 3:20. On se rappelle tous que dans le livre des Actes, quand Paul est à Philippe, il se fait battre comme un brigand, puis on le jette en dehors de la ville. Puis là, il est tout amoché, puis il lève la main, puis il dit « Je suis citoyen ». Et là, wow! Ça change complètement la dynamique. Les gens, ils se cachent, ils viennent le chercher de nuit, puis ils disent « pardon, il est citoyen ». Ça change complètement la relation. Parce que Paul a un statut élevé en tant que citoyen. Or, nous, dans le royaume des cieux, en tant qu'Église, nous avons un statut unique et élevé. Si on se rassemblait, si on voyait tous les anges, nous, on serait tous là, impressionnés, hein? Je sais pas à quoi ils ressemblent, les anges. Tu sais, dans la Bible, des fois, on en a un qui a un pied sur un fleuve, puis un pied sur une montagne. Ils sont gigantesques. Ils sont impressionnants. Mais les anges, la Bible nous dit qu'ils sont des messagers du Seigneur. Ils sont à notre service même. En fait, les anges sont un petit peu comme des esclaves, en fait. Nous, on pourrait arriver au milieu des anges puis dire, « Bonjour, je suis citoyen des cieux. » Et les anges, ils se prosterneraient pas devant nous, mais ils seraient à notre service. Ils disent, « Ah, je peux-tu t'aider? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Tu veux-tu un verre d'eau? » Les anges, on a ce statut-là dans les lieux célestes. Est-ce que c'est pas incroyable? Regardez quelqu'un à côté de vous. Regardez un citoyen des cieux. Disons-le nous. T'es citoyen des cieux. T'es citoyen des cieux. Ça vaut la peine. Regardons autour de nous, il y a des anges là, puis dites « Bonjour, je suis citoyen des cieux. » On ne les voit pas, je sais, mais il y en a, c'est certain. De la même façon, si on a peur la nuit, là, puis que justement, il y aurait des esprits mauvais, on peut leur dire « Laisse-moi tranquille, au nom de Jésus, je suis citoyen des cieux. » Et on a autorité. Ça, pour moi, il y a un côté d'émerveillement de la part du Seigneur, de dire, wow, le Seigneur est flyé. Maintenant, il ne faut pas confondre avec notre citoyenneté canadienne, comme je dis. Hein? Quand je vais au bureau de chômage, puis que j'arrive, je dis, je suis citoyen canadien. Oui, c'est ça. L'ordinateur est là, tape ton code, là, puis vas-y. Hein? Ils vont dire, t'as-tu ton petit numéro? Malheureusement, donc il faut changer notre pensée. Il faut pas réfléchir ça dans les termes du Canada. Ouais, encore moins de d'autres pays, peut-être des fois. Il faut chercher à penser, essayer de trouver quelle est la pensée du Seigneur, qui est peut-être parfois justement un peu folle. Mais imaginez que le Seigneur, il donne naissance à l'Église. Hein? L'Église était toute naissante quand on a vu. Et la forme qu'il lui donne, c'est la forme d'une église, d'une ecclésia, d'une assemblée citoyenne, où chaque citoyen, en même temps, a le droit de vote puis a une influence sur les décisions qui se prennent. Vous et moi, si je commence, par exemple, un rassemblement, un groupe ou même une église, il me semble que j'hésiterais avant de dire, OK, vous avez tout le même niveau, vous avez tout un droit de vote. Ça, je dirais, on va attendre, on va voir. Là, c'est moi le boss. T'sais, on aurait tendance à vouloir contrôler un petit peu. On aurait tendance à imaginer, on va mettre un leader fort, un président, ou un roi, ou un pape, qui va contrôler un peu tout. Mais le Seigneur, et c'est là que je dis que le Seigneur a la folie. Quand nous nous mettons à deux ou trois ensemble et qu'on prie, le Seigneur est là. Quand on se met à deux ou trois ensemble, non seulement le Seigneur est là, mais on est une assemblée citoyenne des cieux. On a un pouvoir spirituel et le Seigneur nous donne ce pouvoir-là. Est-ce que c'est pas flyé? Tout de suite, j'aurais tendance à dire, il va y avoir des erreurs qui vont se passer. Et il y a eu souvent dans l'histoire de l'Église des erreurs qui sont passées. Puis ce qui est merveilleux, par exemple, c'est que il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui dit, ah, attendez, les Écritures ne disent pas ça. Le Saint-Esprit est toujours présent dans son Église pour nous ramener, malgré plein d'erreurs. Et le Seigneur nous a cette sagesse-là, cette folie-là en même temps, de dire, je vous fais confiance, je vous donne mon Esprit Saint, vous êtes des citoyens des cieux. La difficulté, quand on fait le parallèle avec aujourd'hui, si on se fait le parallèle aujourd'hui, en tant que citoyen canadien, on a un pouvoir. Vous allez avoir un pouvoir, vous avez une fenêtre de pouvoir le 7 avril prochain. Faut en profiter. D'accord? Faut en profiter, aller voter. Mais le 8 avril, c'est fini. Heureusement, il y a toujours des possibilités de prendre la parole, de s'impliquer dans des comités, des actions. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans la cité céleste, c'est pas une fois ou quatre ans qu'on a le droit d'aller parler au Seigneur, qu'on peut se réunir ensemble pour invoquer son nom, pour intercéder pour un frère qui vit de la maladie, pour intercéder pour un membre de la famille qui vit une épreuve, pour intercéder pour un emploi ou pour une autre situation, pour la paix. Ce n'est pas juste une fois ou quatre ans. Et on a cette présence auprès du Seigneur, ce droit de citoyenneté. Parfois, on va faire le parallèle avec ici, puis là, je vais nous essayer de nous amener à nous glisser en dehors de notre idée canadienne de citoyenneté, d'une idée terrestre. Comme je disais, si je vais au bureau, j'ai dit bureau du chômage, est-ce qu'il y a un autre, n'importe où, si je vais à l'hôpital parce que ça appartient au gouvernement, si je dis je suis citoyen, on va dire, bon, attendez, c'est selon les codes d'urgence. Et bon, on a des limites humaines et il faut faire avec les réalités qu'on a. Mais parfois, on va avoir tendance à dire, si je suis citoyen, ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires à mon service en même temps. Et parfois, on va imaginer l'Église avec des fonctionnaires. Par exemple, Michel, le pasteur, ce n'est pas là. Ce sont nos fonctionnaires. Fait que c'est pas mes impôts qui payent, mais c'est bon, c'est nos offrandes qui payent. Alors, le fonctionnaire, là, c'est toutes les paroles négatives qu'on pourrait entendre sur les fonctionnaires, on pourrait essayer de l'attribuer aux gens dans l'Église. Puis avoir leur jeter du discrédit, par exemple. Ou de l'autre côté, quand on va au bureau du chômage ou d'autres places, les fonctionnaires ils disent moi je fais ma job, qu'est-ce que je te dois? Donc il pourrait y avoir aussi des ouvriers dans l'Église qui pourraient dire écoute, moi je fais ma job, appelle-moi pas à 3h du matin, moi je fais ma job, là tu devrais être tranquille, là, je vais prier pour toi, laisse-moi tranquille. T'sais, on pourrait avoir des fois, on pourrait imaginer cette relation-là. Même en fait, ça a déjà été entendu. On voit des leaders ou des serviteurs dans l'Église qu'on va les considérer comme des fonctionnaires, des gens. Ils sont ils ont emploi à vie ou même s'il n'y a pas de sécurité ou quoi que ce soit. Je sais que vraiment, en tant qu'ouvrier dans le Seigneur, on n'a pas les sécurités de fonctionnaires. Mais des fois, on va avoir tendance à juger les ouvriers chrétiens dans la même façon qu'on aurait tendance à juger des fonctionnaires. Et c'est là que j'aimerais dire, on n'est pas dans une citoyenneté canadienne, on n'est pas dans une fonction publique canadienne. Étant donné qu'on est citoyen des cieux, on a tous accès au trône du Seigneur. Et on est tous, donc, aussi au service du Seigneur. On est tous disponibles pour se servir les uns les autres. Et ça, pour moi, c'est un émerveillement de la part du Seigneur, que le Seigneur a décidé, non pas de dire, on va appeler ça le royaume. Il n'a pas décidé d'appeler l'Église un royaume avec des petits rois ou des petits ducs, des petits barons. Et nous tous, les membres, on serait les petits esclaves du duc ou du baron. Non, il dit, c'est l'Ecclésia, on est tous citoyens de la même manière. Une fois qu'on rentre dans l'Église, il n'y a pas d'esclaves ni d'hommes libres. Avez-vous déjà lu ça quelque part? À l'époque, dans l'Ecclésia des Grecs, il n'y avait pas de femmes. Dans l'Ecclésia des cieux, il y a des femmes. Et l'apôtre Paul, entre autres, nous dit, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'hommes libres, il n'y a pas de distinction entre les femmes et les hommes. Dans l'Ecclésia, chacun, on a accès non seulement on a accès au trône de Dieu, mais on a ce statut de citoyen avec le droit de parole, avec le droit de dire « Seigneur, on se met ensemble pour intercéder, pour agir, pour vouloir qu'il se passe quelque chose dans les cieux pour cette réalité terrestre. » Ce qui nous amène beaucoup plus loin que la réalité humaine qu'on connaît de nos démocraties. Encore là, je spécifie, allons voter. L'église où j'ai connu le Seigneur, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment même autre chose que ce qu'on vit ici. L'église où j'ai connu le Seigneur, il y avait un pasteur et c'était en fait, il y avait tout le pouvoir. Il n'y avait pas de conseil d'ancien. Même pas de conseil d'ancien, c'était le pasteur. Et le pasteur disait, si c'est moi qui ai fondé l'église, si vous n'êtes pas content, allez-vous-en. Alors, dans cette église, mais d'un point de vue humain, il me semble que ça, c'est la sagesse humaine. Tu sais, tu dis, hey, ça va marcher. Mais la folie de Dieu, c'est de dire, ah, vous êtes à l'église? Non, nous tous, on est citoyens. Nous tous, on fait partie, on est frères les uns des autres. Et il n'y a pas de privilège auprès de Dieu. Nous tous, on est citoyens. Pour moi, quand je parle de folie de Dieu, c'est parce que je pense ça veut dire que Dieu nous fait confiance. Parfois, on peut critiquer particulièrement le pasteur, ou ça pourrait être les anciens, ou ça pourrait être d'autres leaders. On pourrait critiquer le district, peut-être, ou d'autres niveaux d'autorité. Mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous fait confiance. Dieu nous a placé sa cité céleste entre nos mains. Bien sûr, il a laissé à notre tête le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Jésus est la tête de l'Église. Ça, heureusement... Si on coupe la tête, on peut plus appeler ça l'Église du Seigneur. Amen. Je mets jamais le Seigneur en dehors de l'Église. On peut pas dire on fait une révolution, on va voter la séparation du ciel, notre Église, on veut être indépendant, on veut être rattaché à la Russie, on veut plus être lié. Non, il y a pas de référendum comme ça là. Si on coupe la tête, on n'est plus l'Église. Hein, si on se détache de notre Seigneur, bon, faut trouver un autre mot. Il faut trouver une autre réalité, il faut trouver d'autres bénédictions aussi parce que ça va être difficile. Là. Mais c'est ça, le Seigneur est toujours là. J'ai perdu mon fil là, en parlant de quand je parle de politique là, ça va dire. Faudrait que j'écoute ma femme, elle veut pas que je parle de politique. Oui, c'est ça, il nous fait confiance. Merci, quelqu'un m'écoute. Merci, Francis. Je devrais m'écouter, moi aussi. Mais la merveille, c'est que le Seigneur, il nous fait confiance. Et ça me fait peur moi-même, parce que je dis, mais si je me trompe, si je vais parler à quelqu'un, puis je fais une erreur, puis là, souvent, on va dire, je vais attendre que le Seigneur me le montre. Je vais attendre que le Seigneur nous le dise. Je vais attendre que... Puis des fois, on se fige par la peur, par l'inquiétude. Alors que lui, le Seigneur, il dit, « Hey, t'es un citoyen. Tu fais partie de l'Assemblée. » L'Assemblée, c'est le même niveau qu'on pourrait dire que le Parlement ou l'Assemblée nationale. Tu fais partie... Hein, le Seigneur, l'apôtre Paul, il dit d'ailleurs que on va régner avec lui dans les cieux. En fait, c'est comme si on est en train de régner dans les cieux, puisqu'on a cette expression. On fait partie de l'Ecclésia, qui est le centre du pouvoir des cieux. Et le Seigneur est là, il nous fait confiance. Et comme je dis, c'est pour moi, c'est ça la notion particulière de la folie de Dieu. Est-ce que vous faites confiance à vos concitoyens des cieux? Est-ce que je fais confiance à l'un et l'autre? Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce que je fais confiance à ma femme? Je fais confiance à mon mari. Moi, je fais pas confiance à mon mari, mais est-ce que vous faites confiance à votre mari? Nos enfants? Dans l'Église? Est-ce que je fais confiance aux anciens? Est-ce que je fais confiance à mes frères, mes sœurs? Le Seigneur, lui, oui. Le Seigneur, il fait confiance. Et il se dépose entre nos mains. Un jour, pour montrer aussi une petite distinction entre les citoyens, citoyens canadiens puis citoyens des cieux, un jour, je suis au Niger. On habite une ville en dehors de la capitale, dans une zone dangereuse, ben, qui était jugée dangereuse. Tout allait bien. Et il y avait eu des enlèvements, à peu près dans notre région. Des Canadiens avaient été enlevés, des diplomates, qu'on pourrait dire sinon même des diplomates avaient été enlevés par des terroristes. Ils ont été libérés. Et un jour, Sophie et moi, on s'en va à la capitale, et ça a donné qu'il y avait une amie québécoise qui faisait un petit spectacle de théâtre. Et il y avait plein de Canadiens qui étaient là en même temps. Alors, je rencontre une fonctionnaire du bureau de l'ambassade qui était la nouvelle consul. Bon, on était tous en groupe, on parle, c'est comme un truc, c'est informel, il n'y a rien d'officiel. Alors, je me souviens que je rencontre la dame, moi je la connais pas, je dis « Bonjour, je m'appelle Daniel Marino ». Et c'est la première fois que je trouvais que mon nom avait un effet. Elle dit « Ah oui! » Je suis connu. Mais c'est tant mieux, il n'y a pas beaucoup de Québécois, Canadiens au Niger, là, c'est pas difficile de connaître tout le monde. Mais j'ai senti que il y a quelque chose qui a allumé pour elle, tu sais, fait que je fais pas attention, puis je réalise pas tout de suite. Puis à un moment donné, en parlant, en jasant avec les autres indirectement, elle commence à expliquer quelque chose qui est arrivé au Niger. Il y a eu des enlèvements et officiellement, il y a personne qui a payé de rançon. Mais elle, pendant qu'elle parle, elle dit « Ah, le Canada a fait une erreur. Ils ont payé la rançon une fois pour des Canadiens. Ils la payeront pas une deuxième fois. Si ça arrive encore, ils leur feront pas cette erreur-là. » Et là, moi, je suis là à côté d'elle, sachant que je suis en zone dangereuse. Et là, sur le coup, j'ai pas réalisé. C'est après, j'ai réalisé, je dis « Oups, je viens de perdre mon statut de citoyen canadien. » Dans cette zone-là, je ne suis plus sécurisé. Je ne peux pas dire, oh, s'il arrive quelque chose, je suis citoyen canadien. Elle vient de me dire, désolé, tu es en dehors de la zone. Mais dans le Seigneur, on est citoyen des cieux. C'est vrai qu'il y a des frères et des sœurs qui sont absents, absentes aujourd'hui. Mais ils sont toujours citoyens des cieux. C'est vrai qu'on n'a pas de passeport pour aller au ciel. Mais dans le livre des Corinthiens, il nous dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné un gage qui est l'esprit. D'une façon imagée, dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit qu'il nous a donné un sceau. Un sceau qui est le Saint-Esprit. Le Seigneur connaît ses enfants. Et même si si je n'étais pas ici, je reste citoyen. Quand j'ai pensé à cette image-là du Niger, que j'étais plus sous protection canadienne, et pour vous rassurer, je suis toujours là. Donc, on a quitté le village à un moment donné. Mais j'ai pensé, comment le Seigneur, lui, agirait s'il y avait un citoyen qui était égaré? S'il y avait un citoyen qui n'était plus là, qui ne venait pas se présenter à l'Assemblée pour voter, prier, pour s'accorder avec les uns et les autres. Et là, je me suis rappelé cette parabole dans Luc 15, que Jésus, il parle du bon berger. Il parle d'un berger qui, à un moment donné, il réalise qu'il a perdu une brebis. Et là, il y a 99 brebis qu'il va laisser là pour aller chercher la brebis qui est perdue. Amen. Et d'une part, en fait, je m'étais dit, me semble que moi, si je partais puis je laissais mes 99 brebis, j'aurais peur d'en perdre une autre. Mais les bergers, il fait confiance à son troupeau. Peut-être qu'il y a un chien qui tourne autour. Il fait confiance et il va chercher la brebis qui est perdue. Et en fait, l'image que je vous suggère, c'est que le Seigneur, même quand on est égaré, il nous cherche. Il nous cherche dans les montagnes, il nous cherche dans les vallées, il nous cherche dans les creux, parce que on appartient à la cité céleste. Et que le Seigneur a cette confiance-là dans les 99 autres brebis qu'il peut les laisser pour aller chercher la brebis qui est égarée. Le Seigneur nous fait confiance à ce point de dire que, je vais aller chercher la brebis qui est égarée, je peux laisser le troupeau là. Ce matin, quand je me suis levé, j'étais attentif, mais je me suis dit, si mon téléphone sonne puis qu'il y a un citoyen des cieux qui est égaré puis qui m'appelle, qu'est-ce que je fais? Je suis programmé pour prêcher un matin, je peux pas manquer l'église. Mais je me dis, si on m'appelle, il faut que j'aie le guts d'aller aider mon frère, ma sœur qui est égaré. Et de faire confiance que le Seigneur va être présent ici, malgré tout. Parce que le Seigneur, lui, a cette confiance-là. En réfléchissant à cette image-là, même des fois, je me suis dit, moi, j'aime cette image-là de dire que le Seigneur cherche les citoyens qui sont égarés, qui sont au loin. Puis je vous demande de regarder autour de vous. En même temps, peut-être vous avez remarqué qu'il manque peut-être quelqu'un. Dans quelques minutes, on va prier ensemble pour ces quelqu'un qui sont peut-être pas là aujourd'hui. Mais parce qu'on a cette autorité-là dans les cieux de prendre soin de nos frères et nos sœurs. Mais je reviens à cette idée. J'aime cette image que Jésus est en train de chercher les brebis égarées. Au point où j'ai dit, Seigneur, plein de fois j'ai pensé, Seigneur, j'étais à une église, puis il me semble que le Seigneur n'est pas là aujourd'hui. T'sais. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là, vous êtes à l'église, il me semble que le Seigneur n'est pas là. Il me semble qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, t'sais. Pour une raison qui n'est pas nécessairement émotive, là, t'sais, pour une raison quelconque. Eh bien, en fait, je vous suggère une autre image, c'est que le Seigneur est parti, est parti les chercher. Le Seigneur est parti chercher, il nous fait confiance. On est 99 brebis. Il nous fait confiance. Il est parti chercher les brebis égarées. Il est parti chercher nos concitoyens qui sont absents. Peut-être vous dites, Daniel, non, je ne suis pas d'accord. C'est sûr qu'on aimerait toujours qu'il soit là. Il est toujours là en même temps. Il ne nous a pas laissé abandonner. Notre cœur n'est pas vide parce qu'il est parti chercher les brebis égarées. Amen! Le Seigneur, il ne nous laisse pas tomber. On est ses citoyens. Mais pour dire qu'il va aussi à la recherche de ceux qui sont loin. Je viens de le dire, j'aimerais aussi qu'on le mette en application. Je vais arrêter là. Puisqu'on est citoyens des cieux, allons dans la présence du Seigneur avec cette autorité-là qu'il nous donne. On va prier ensemble. On va se mettre à 3-4. Le Seigneur dit, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. On est plus que 2 ou 3, mais on va se mettre à 2 ou 3. Peut-être pensons à des frères, des sœurs qui ne sont pas là. Il y en a peut-être qui, c'est parce qu'ils assistent à une autre église et donc ils ne sont pas égarés nécessairement. Peut-être qu'il y en a qui sont tristes. Il y en a qui sont malades, ne sont pas capables de venir. Il y en a qui sont éprouvés. Peut-être qu'il y en a que c'est parce qu'ils ont tombé hier soir, ils ont pris une brosse, ils ont mal à la tête. C'est possible. Mais prions pour eux. On les connaît. Moi, j'ai donné cet exemple-là, mais je ne connais personne. Je n'ai pas de soupçons sur personne. Mais osons nous réunir en tant que citoyens. Et disons, Seigneur, j'intercède pour mon frère, ma sœur, j'intercède pour un tel, parce que tu es vivant, c'est notre concitoyen, il t'appartient, va les chercher là où ils sont. Amen. Alors, trouvez quelqu'un à côté de vous, si vous voulez vous mélanger même, des fois vous êtes Tous ils sont placés en couple, mais si vous êtes tenus de prier en couple, vous pouvez changer de place. Amen. Quittez pas trop loin. J'aimerais vous garder encore dans la présence du Seigneur. Tournez pas trop vos chaises. Pendant qu'on priait, je réalisais que, comme je disais, l'Ecclésia grecque décidait de la guerre et de la paix. J'aimerais qu'on reprie maintenant pour les situations qu'on connaît au travers le monde, où s'il y a des lieux de guerre, où il y a besoin de paix. Certains d'entre nous, on connaît soit dans nos pays NATO d'origine, je pensais au Congo, au Nord Kivu, les difficultés en Haïti, ou ce qui se peut se passer en Ukraine. Pour nous tous qui avons suivi les actualités, prions pour ces pays. Prions pour aussi, dans ces pays, il y a nos frères, il y a nos citoyens qui certainement souffrent. La Palestine, et l'Israël, l'Irak, hein, les chrétiens du Moyen-Orient, c'est les régions les plus persécutées maintenant. Prions, et en tant que citoyens des cieux, pas en tant que Canadiens, pas en tant que résidents de Pierrefonds, mais en tant que citoyens des cieux, en disant « Seigneur, on vient et on intercède et pour ceux qui souffrent, que ce soit en Colombie ou ailleurs, n'importe où, libre à nous tous de trouver. » Amen.